anthropologie et en philosophie, la relation entre l'homme et l'animal fait l'objet depuis 2 ou 3 décennies d'un grand nombre de colloques et de publications, au point d'être devenu un domaine spécialisé de recherche, la philosophie de l'animalité, porté en son temps par Jacques Derrida et aujourd'hui par Elisabeth de Fontenay. Les artistes ne sont pas en reste, en témoigne la rétrospective que le musée Guggenheim à New York consacre en ce moment même à Maurizio Cattelan et à ses animaux empaillés, la sortie programmée de félins sur les écrans, d'un film consacré aux vaches bovines et dans un registre tout à fait différent du projet Nîmes hier sur le langage des chimpanzés. En témoigne également l'exposition Beethoven à la Conciergerie à Paris qui rassemble une quarantaine d'artistes contemporains. Ghislain Berthollon a participé à l'aventure et a réalisé un magnifique cerf qui agonise et semble renaître dans le même temps, une œuvre intitulée Vanitas. En tant que directeur d'études à l'École pratique des hautes études où il occupe la chaire d'histoire de la symbolique occidentale, Michel Pastoureau quant à lui s'intéresse depuis longtemps à la symbolique des animaux au Moyen-Âge. Son ouvrage « L'ours, histoire d'un roi déchu » sorti en 2007 est devenu une référence. En novembre dernier, apparu « Bestiaire du Moyen-Âge » d'un album illustré de reproduction d'enluminures ornant les bestiaires médiévaux. Et Michel Pastoureau retrace là l'histoire symbolique des animaux présents dans ces étranges livres, de l'abeille au frelon, du cerf précisément au cochon, sans oublier les chimériques dragons, centaures, griffons, licornes et autres sagittaires. Enfin, Catherine Guibaud, dans « Dernière caresse », fait le portrait émouvant du meilleur ami de l'homme. Ce texte a été publié dans la collection Blanche. Il s'intitule « Dernière caresse ». Il est sorti en 2009 chez Gallimard et il vient de sortir en folio. Ce sont tous les trois les invités de la grande table aujourd'hui. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
C'est un certain nombre d'actualités culturelles que j'ai citées, mais on pourrait rajouter un cycle animal avec notamment le carnaval des animaux de Saint-Saëns à la Cité de la Musique à Paris, bientôt au Centre Pompidou, le festival Hors-Piste, également consacré à l'animal, ce qui signe peut-être un engouement pour nos amis les bêtes. L'animal comme détour philosophique et artistique pour mieux penser l'homme ou comme objet esthétique en soi, c'est ça qu'on va voir. On va commencer par vous, Ghislain Berthollon, et par votre travail sur l'animalité. Quelle place occupe dans votre travail d'artiste les animaux? Pourquoi vous intéressez-vous aux animaux, autrement dit?
Moi, j'ai l'impression de m'intéresser avant tout à l'humain. Et mon travail, il est vraiment centré sur l'humain. Et j'utilise la figure animale de façon allégorique, mais de façon tout à fait instinctive. En fait, pour tout vous dire, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte au départ. Et je m'en suis rendu compte parce que justement, il y a des gens qui écrivent des textes sur mon travail. Et à un moment, il y a un texte qui rassemblait l'ensemble des œuvres où j'utilisais justement la figure animale. Et là, c'était juste évident que j'utilise depuis toujours, depuis mes études aux Beaux-Arts aussi, la figure animale pour parler de mes contemporains, de la société, puisque tout mon travail est ancré dans la politique, la géopolitique, l'économie. Avant tout, j'ai l'impression de parler de nous, de vous.
Alors on peut voir par exemple, pour donner un exemple concret aux auditeurs, une série qui s'intitule Trochée. La série Trochée, c'est évidemment un jeu de mots entre tranchée et trophée, peut-être, Ghislain Berthollon.
Presque, parce que c'est Trochée présenté de face. Donc Trochée de face. Donc c'est un contre-pair.
Ah.
À 2 centimes d'euros, je vous l'accorde, mais c'est quand même un contre-pair.
Et donc
trophée de chasse.
On peut voir évidemment dans ces trochées de face, des derrières de lapins ou des derrières de renards ou des devants de biches qui sont encastrés dans le mur et donc coupés de moitié. Parfois, on voit le lapin qui essaye de s'en sortir. C'est de la taxidermie.
C'est de la taxidermie. Ils sont sur des blasons, en fait, sur des écussons. Et ce sont toujours des culs d'animaux, toujours, et qui sont présentés. Il y a des effectivement renards, martres, fouines, etc. Et il y a aussi une vache qui existe. Il y a un sanglier qui arrive. La vache, c'est parce que j'ai entendu qu'un chasseur avait quand même réussi à tuer une vache d'une balle dans la tête. Et donc à ce moment-là, j'avais pas du tout prévu de faire une vache, mais cette pièce-là est née à ce moment-là.
Et quant à l'œuvre qui est présentée en ce moment à la Conciergerie, elle s'inscrit dans un cycle de travail qui est consacré à l'animal et donc à l'humain, si je vous suis bien, et qui est intitulé Poésie. Il faut juste dire un mot de cette exposition Beethoven, puisque c'est une réunion d'animaux qui ont d'abord été présentés un peu partout, disséminés en France, dans les musées nationaux, qui répondaient d'ailleurs à une commande, Ghislain
Berthollon. Dans des lieux du patrimoine, en fait. C'est Claude Dantenez qui est commissaire de cette exposition, assisté de Raphaël Abril, et c'est dans des lieux du patrimoine, un petit peu partout en France. Il y avait 40 lieux. Et l'idée, et j'aime bien son image, il le dit dans le texte, c'est que pour l'hiver, les animaux ont migré et sont revenus dans Paris à la Conciergerie. Voilà, pour une exposition qui s'appelle Beethoven et qui rassemble, alors il n'y a pas tout, parce que c'est des fois pas possible de montrer certaines pièces qui étaient vraiment plus liées à un lieu, ou qui étaient difficiles à transporter, et puis il fallait une cohérence d'ensemble. Mais l'idée c'était ça, c'était de disséminer dans toute la France pendant l'été, et pour l'hiver, les pièces reviennent à Paris.
Et donc pour l'occasion, la conciergerie s'est transformée en une sorte de forêt mystérieuse, voilà. Les piliers forment des arbres autour desquels on navigue.
Il y a une très belle scéno qui met tout ça en scène.
Et on voit toute une sorte, enfin vraiment toute une chorégraphie d'animaux. C'est-à-dire on voit des chevaux, on voit des baleines, on voit des girafes, on voit des oiseaux, une chouette aussi, des animaux imaginaires. On va revenir dans quelques instants, effectivement, sur le bestiaire avec Michel Pastoureau, puisqu'il y a des licornes. Et puis tout d'un coup, dans une salle, on tombe sur votre œuvre Vanitas. Vanitas, c'est donc un cerf, Ghislain Berthelot.
Oui, alors là, l'illustration sonore, j'ai l'impression que j'ai traité de Chewbacca dans Star Wars, mais effectivement, c'est le brame du cerf. Le mien est muet. Le mien est muet. Il est en agonie. Il tire la langue. Il a cette position improbable qui est celle, alors je ne sais pas de quelle tapisserie, mais j'ai vu ça une fois dans une tapisserie du 15e, un cerf agonisant qui tombait à genoux et un chasseur qui plantait une lance dans le poitrail. Et quand j'ai eu l'idée de cette œuvre, j'ai eu cette image qui m'est revenue. J'ai fait une sculpture dessous qui où il y a cette position, le cerf est en train il tombe à genoux, il est en train d'agoniser et il est surtout tué par sa majesté, c'est-à-dire sa majestuosité plutôt. C'est-à-dire qu'il a des bois tellement beaux, tellement énormes, qui ont grandi au fil du temps, qu'il est condamné à mourir sur pied, sur place, mangé par de minuscules petites mouches à merde qui sont posées sur son museau, sur son dans ses naseaux, dans ses yeux, etc. Et lui, il est sur pied, il est bloqué, il est en train de silence. Mais ces bois qui sont en or avec des incrustations de têtes de mort. Donc il y a la mouche, il y a la tête de mort, on est vraiment dans la vanité. Ils plongent dans le sol et ils ressortent en résurgence plus loin. Et là, c'est une forêt. C'est une forêt qui ressort, une forêt dorée, mais une forêt qui... Donc l'idée, c'était vraiment... On passe de l'animal, mais on ressort plus loin sur le végétal et la vie.
Et vous dites, Ghislain Berthelot, que vous êtes inspiré d'une tapisserie moyenâgeuse. Il se trouve, Michel Pastoureau, que le cerf est un animal qu'on retrouve dans les bestiaires et que précisément la symbolique qu'utilise là Ghislain Berthelot dans son œuvre d'art est une symbolique qu'on retrouve au Moyen-Âge, c'est-à-dire à la fois symbole de longévité, de rapidité et de résurrection, écrivez-vous.
Oui, c'est un animal ambivalent pour la symbolique médiévale. Il y a un bon et un mauvais cerf. Là, on a mis en valeur les bons aspects du cerf. On peut aller même plus loin et dire qu'il est une sorte d'attribut du Christ ou d'image incarnée du Christ. Le Moyen-Âge latin fait un jeu de mots entre le nom du cerf, Cervus, Carvus, et le nom du sauveur, du Christ, Cervus. Ça ne s'écrit pas pareil, mais ça se prononce de la même façon. Donc le cerf est un animal christologique, mais c'est aussi un animal qui a une sexualité exacerbée, qui est parfois à certains moments de l'année... notamment à l'automne, en état de rut extrêmement violent. Donc il y a un cerf négatif aussi pour la symbolique médiévale. D'ailleurs, tous les animaux sont ambivalents. Il y a les bons et les mauvais aspects.
Et c'est l'Église qui a imposé la chasse au cerf parce qu'elle trouvait que c'était plus noble que chasser le sanglier.
Pas tellement plus noble, mais moins sanglant. les chasseurs romains, germains, gaulois et tous ceux du haut Moyen-Âge préfèrent de beaucoup la chasse aux sangliers et la chasse à l'ours parce que ce sont des chasses où l'animal combat courageusement et ça se termine par un corps à corps violent entre l'homme et la bête avec échange de souffle, échange de sang. Pour l'Église, c'est épouvantable. Donc, elle aurait rêvé de supprimer la chasse, mais elle n'y est pas arrivée.
Et il n'est pas l'ours non plus qui incarnait quatre des sept péchés capitaux lourds.
Cinq,
j'en avais lu quatre.
Il n'y a que l'orgueil et la cupidité qu'on ne lui associe pas. Mais il est luxurieux, il est coléreux, il est envieux, il est goinfre. Bref, c'est un animal épouvantable. Le cerf, du point de vue de la chasse, présente la particularité d'être un animal qui fuit, qui a peur. Donc pour les chasseurs, c'est pas très intéressant pendant longtemps. Pour l'Église, au moins, c'est moins violent, moins sanguinolent. Donc elle impose lentement la chasse au cerf comme chasse noble et chasse royale. Mais l'affaire est entendue au XIIe, XIIIe siècle. Les rois chassent le cerf, ils ne chassent plus l'ours ni le sanglier. Et les tapisseries auxquelles vous faisiez allusion sont assez nombreuses à la fin du Moyen-Âge qui montrent un prince ou un roi en train de tuer un cerf. Et le cerf, au fond, c'est la victime. On le représente presque toujours, peu avant sa mort. C'est l'image du Christ sur la croix.
Gisela Bertolon. Apprenez des choses.
Ah oui, c'est formidable.
D'ailleurs, il y a pas mal d'images de cerfs montrant un crucifix ou une croix entre ses bois. C'est un thème assez courant dans l'iconographie médiévale.
Le cerf vit 1000 ans, le sanglier porte ses cornes dans sa gueule, la belette conçoit par la bouche et enfante par l'oreille, le taureau perd sa force si on l'attache à un figuier, le bouc a toujours la fièvre et son sang est si chaud qu'il traverse le diamant, l'autruche est une sorte de chameau qui peut manger n'importe quoi, y compris des objets en métal, le lynx est un immense ver de couleur blanche dont le regard transperce les murailles, l'hyène change de sexe à volonté, quant à l'hirondelle, elle mange, boit et dort en volant. Voilà quelques-unes des affirmations qu'on peut lire Michel Pastoureau dans ces bestiaires du Moyen-Âge et qui forment aujourd'hui aux éditions du Seuil un très beau livre. Bestiaires du Moyen-Âge, ce sont des étranges livres de bêtes, mais qui sont propres au Moyen-Âge, écrivez-vous.
Oui,
enfin, en tous les cas, une partie du Moyen-Âge, hein, 12e et 13e siècle pour les périodes les plus fastes.
L'Antiquité n'en avait pas connu de semblable, bien qu'elle ait beaucoup écrit sur les animaux, mais ce genre-là, en effet, né au Moyen-Âge, connaît son apogée au Moyen-Âge central, 12e, 13e siècle. Pour la culture médiévale, ils ne sont pas tellement étranges. C'est pour nous qu'ils sont étranges, parce que notre savoir sur les animaux et nos curiosités se sont déplacées, corrigées, complétées. Mais pour les contemporains, non. Ce sont des ouvrages savants, scientifiques, qui disent la vérité des êtres et des choses. Donc il faut les étudier comme cela. Et naturellement, il ne faut pas projeter, sans précaution aucune, nos savoirs d'aujourd'hui sur l'époque médiévale. Sinon, ça montre qu'on n'a rien compris à ce qu'est l'histoire.
Anachronie même au sein du Moyen-Âge, qui est une période qui a duré près de 1000 ans. Là, vous identifiez à peu près 3 siècles, du 11e au 14e siècle, me semble-t-il. Et vous dites même que, évidemment, le regard a évolué sur les animaux, en particulier sur ce qu'on appelle aujourd'hui les animaux domestiques, c'est-à-dire le chien et le chat, pour le dire rapidement. Mais même, donc, entre l'époque de Charlemagne et celle de Jeanne d'Arc, évidemment, le regard a changé, dites-vous, Michel Pastoureau.
Oui, bien sûr, le Moyen-Âge dure 1000 ans. Donc, rien n'est immobile, ni les savoirs, ni les sensibilités, ni les discours. Le chat en est un bon exemple. On n'aime pas beaucoup le chat en Europe pendant le haut Moyen-Âge. C'est un animal diabolique. Il a des mœurs nocturnes, c'est très mal. Il voit dans les ténèbres, c'est inquiétant. Il se revalorise au XIVe siècle quand il y a la grande peste qui en 5 ans tue un tiers de la population européenne. On prend conscience que les rats et les souris ont probablement été agents propagateurs de l'épidémie et on se demande si les chats ne seraient pas plus efficaces pour chasser les rats que les belettes qu'on utilisait jusque-là, comme d'ailleurs le faisaient les Grecs et les Romains. On fait l'essai et en effet le chat se montre plus efficace et dès lors le regard sur le chat change et il a le droit enfin d'entrer dans les maisons et il devient en 3-4 générations le compagnon familier que nous connaissons. Donc c'est un renversement de valeur assez rapide et profond.
Et d'ailleurs, on se pose tout un tas de questions au Moyen-Âge sur l'animal. Qu'est-ce qu'il devient après la mort? Qu'est-ce qu'il mange et comment mange-t-il? On a l'impression, en regardant votre bestiaire, Michel Pastoureau, d'une profonde empathie vis-à-vis de l'animal au Moyen-Âge. Est-ce qu'elle est réelle, cette empathie?
Oui, bien sûr. L'animal est beaucoup plus proche de l'être humain que dans nos sociétés contemporaines. Il y a tout un courant au Moyen-Âge, hérité d'Aristote, puis de Saint-Paul, qui fait une communauté des êtres vivants. Donc l'animal fait partie de cette communauté, donc on se pose en effet beaucoup de questions. Est-ce qu'il va en enfer, au paradis, après sa mort? Est-ce qu'on a le droit de faire travailler les animaux le dimanche, etc. Parfois ça nous fait sourire, bien sûr, mais ça implique une proximité bien plus grande entre l'homme et l'animal que de nos jours. Et notamment, on a procès fait aux animaux, des actes d'excommunication de certains animaux. Le cochon est la vedette de ces procès. D'ailleurs, le cochon est pensé avec l'ours comme l'animal le plus proche de l'homme du point de vue biologique et anatomique, ce que la médecine contemporaine confirme pleinement.
D'ailleurs. En tout cas pour le cochon.
On le sait très bien au Moyen-Âge. Dans les écoles de médecine, on étudie l'anatomie humaine à partir de la dissection du porc ou de la truie, parce que l'Église interdit la dissection du corps humain. Donc il y a cette idée d'une communauté des êtres vivants, et ça a même des conséquences religieuses. On se demande, est-ce que le Christ est venu sur terre pour sauver aussi les animaux, toutes les créatures, comme dit saint Paul? Est-ce que ça concerne aussi les animaux? Et la réponse en général est oui. Jésus est né dans une étable, c'est bien la preuve qu'il est venu sur terre sauver aussi les animaux. Donc tout ça va durer un certain temps, et puis commencer à changer au XVIe et surtout au XVIIe siècle, où le balancier des rapports entre l'homme et l'animal va repartir dans l'autre sens. Alors ce sera l'époque de la théorie des animaux-machines. Les animaux ne connaissent pas la souffrance, on peut leur faire subir tout ce qu'on veut. Et puis au XVIIIe siècle, le balancier repart dans l'autre sens, et c'est la naissance des premières sociétés protectrices des animaux en Écosse, puis en Angleterre et sur le continent enfin.
Mais à cette époque-là, en tous les cas vers le XVIIe siècle, les bestiaires laissent leur place au profit des fables, en particulier, en tous les cas celles qu'on connaît évidemment ici, les fables de La Fontaine. Écoutez, le rat et l'éléphant, dit par Fabrice Lucchini.
Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal françois. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou. Mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre, qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat, des plus petits, voyait un éléphant des plus gros, et raillait le marcher un peu lent de la bête de haut parage, qui marchait à gros équipage. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat, sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper ou plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins important. Mais qu'admirez-vous tant, lui, vous autres hommes? Serait ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant.
Michel Bassourot, le lien entre le bestiaire et la fable, c'est peut-être à la fois l'usage de l'animal à destination humaine à chaque fois, et surtout la symbolique, puisque vous écrivez que dans les bestiaires, la symbolique l'emporte sur le réalisme.
Oui, les auteurs de bestiaires cherchent non pas la réalité, mais la vérité. Et pour la culture médiévale, ça n'est pas la même chose. La réalité, c'est le monde d'ici-bas. C'est l'observation des espèces animales. On sait très bien observer au Moyen-Âge. Mais on n'a pas idée que l'observation conduise à la vérité des êtres et des choses. Celle-ci est de l'ordre métaphysique. Donc on la cherche dans l'au-delà en passant par le vocabulaire, par l'étude des mots, ce que nous appelons, nous, l'étymologie. Ça, c'est beaucoup plus important que l'observation du comportement ou même la description des formes exactes de l'animal. Ça contribue à créer une sorte de bestiaire central, en quelque sorte, de la culture européenne, qui devient presque indélébile à la fin du Moyen-Âge, et par le biais des faits de langue, par le biais des proverbes, par le biais des images, ça influence toute la culture animale suivante. Et les fables de La Fontaine sont un réceptacle des bestiaires médiévaux. Même si La Fontaine ne les a pas connus directement, il en est l'héritier total, et à son tour, lui-même redistribue cette symbolique animale jusqu'au livre pour enfants dans nos sociétés les plus contemporaines. Donc il y a une continuité. Et il y a un bestiaire qui se construit autour d'un petit nombre d'espèces, même pas une vingtaine, sont des animaux très très importants, avec des traits qui ne changent pas, mais qui sont différents de ceux des bestiaires des autres cultures, qui sont propres à l'Occident donc.
Alors on parlait tout à l'heure des animaux domestiques, de ce qu'on appelle aujourd'hui animaux domestiques, et puis du regard sur les chats et les chiens. Tiens, qu'en est-il des chiens, Michel Pastoureau, à cette époque-là, entre, disons, le XIe et le XIVe siècle? Est-ce qu'il est déjà le meilleur ami de l'homme?
Non, pas du tout. Le meilleur ami de l'homme, c'est le faucon. À l'époque féodale, c'est l'animal préféré de l'aristocratie. Le cheval est à peine considéré comme un animal. Souvent, c'est plus un instrument, un outil de travail. D'ailleurs, beaucoup de bestiaires ne parlent pas du tout du cheval. Le chien, lui, il a un statut qui évolue. Pendant le Haut Moyen-Âge, c'est encore l'héritage antique. On se méfie du chien qui passe pour très très sale. Et puis, par la chasse, le chien se revalorise. Certains chiens, pas tous les chiens, et à la fin du Moyen-Âge, comme pour le chat, il est devenu plus familier, compagnon qui a le droit d'entrer dans les maisons, etc. Mais ça va encore évoluer au début de l'époque moderne.
Mastique des feux mignons, lui, il est déjà dans la maison, Catherine Guibaud, on ne vous a pas encore entendu. Je m'appelle la mastique des feux mignons, je descends par mon père Dian du Bec Étoile et par ma mère de Senzo Vitoun de la Mutinerie. Je suis un setter anglais de sexe mâle, né le 17 avril 1994. C'est à la fois le narrateur et le héros de ce livre que vous consacrez à ce chien, Dernière caresse. Et il faut attendre la page 36 pour découvrir la véritable identité de celui qui parle.
Oui, je me suis dit que ce serait très bien de commencer le livre finalement avec un narrateur imprécis. Et de faire cette surprise, parce qu'évidemment c'est lui qui écrit, mais moi, je me méfiais beaucoup de la littérature animalière entre guillemets, d'abord parce que je crois que c'est un exercice très difficile. Beaucoup d'auteurs et non des moindres s'y sont essayés avec talent, et c'est vrai que c'est pas non plus tellement dans l'air du temps. Et je crois qu'il y a, même si ça revient un peu, il y a assez peu de livres où finalement les animaux prennent la plume, sinon la parole. Donc voilà. Oui.
Et vous assumez l'anthropomorphisme à plein.
Mais
c'est un jeu de narration.
Pourtant, j'ai essayé de m'en garder. Je pense que c'est plutôt de l'anthropomorphisme à l'envers. Je pense que c'est le chien qui finalement aimerait tant être homme qu'il en finit par devenir écrivain. Donc voilà, j'aime beaucoup les animaux, mais je pense que de tomber dans le travers de l'anthropomorphisme, c'était pas vraiment ce que je voulais faire.
Et pourtant, il est doté du sentiment tragique de sa propre finitude, puisque le livre s'ouvre sur le sentiment qu'il a de sa propre fin. Il sent qu'il est vieux déjà, et puis il sent qu'il va mourir.
Oui, c'est vrai.
Et en plus, il éprouve la honte aussi à certains moments. Gislain Berthelon, vous avez lu le livre de Catherine Guibaud.
Mais en même temps, il reste à sa place, ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire comme c'est un animal où il y a la pièce pour les chiens. Il est très conscient ça, et quand il essaye un petit peu de...
Oui.
Par exemple, qu'il s'assoit tout simplement à une place qui n'est pas la sienne, il sent tout de suite mal à l'aise.
Oui,
il est très conscient de ça, je trouve.
Nous n'avons rien à gagner à feindre l'humain.
Voilà.
Chacun restant à sa place, évidemment.
Il est très conscient de tout ça. Il est aussi très conscient de l'amour que lui porte elle, avec une majuscule. On entend bien que c'est la maîtresse de ce chien, et que c'est un hommage finalement rendu à un animal. Dès le début, donc, on sait que ce chien va mourir, et puis il raconte sa vie. Ce sont les mémoires finalement de ce chien, et un hommage aux personnes qui l'ont aimé et qui l'a lui-même aimé. Il y a elle, et puis il y a un setter, une femelle, Elsa.
Oui, il y a pas mal d'animaux, mais il y a aussi quelques humains. J'ai voulu faire, enfin en toute modestie bien sûr, une sorte de tombeau dans l'acceptation du terme, le tombeau du 18e, ou ce tombeau de papier que l'on dresse après la mort d'un être cher. Donc alors évidemment, tout ça est parti de la mort d'un chien. Mon chien, en effet, mais je crois que l'impulsion est venue surtout de la volonté de raconter une maison, un endroit, un lieu, une famille, et je ne savais pas trop par quel bout commencer, donc je me suis dit qu'après tout, peut-être que le regard du chien, donc décalé, donc plus à ras de terre, conviendrait assez bien, finalement.
Un tombeau pour un chien qui rappelle une œuvre d'art, Gislain Berthelon.
Oui, une œuvre qui n'est pas de moi, mais une œuvre qui est au musée de la chasse et de la nature, où il y a effectivement un sanctuaire pour chien, un tombeau pour chien, qui est une pièce magnifique, et qui doit être être dans l'exposition Beethoven en ce moment à la Conciergerie. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir lu aussi la chronique d'une famille, parce qu'on voit les enfants qui sont là, qui grandissent, et qui on lit en filigrane vraiment l'histoire d'une famille derrière, à travers le film.
Oui.
Voilà, moi j'avais l'impression de connaître mieux aussi derrière les gens qui vivent autour des animaux.
Et oui. Puis ce qui est cocasse, c'est quand même qu'on voit le monde, et vous l'écrivez, Catherine Guilbeault, à hauteur de chien, c'est-à-dire, il faut quand même le rappeler, à 50 cm au-dessus du sol.
Il paraît que les animaux, désirant un peu de repos, sont mis en grève tout à coup, histoire de faire comme nous. Le serin ne veut plus friner, la poule ne veut plus couler, le loup ne veut plus louqueter, le chien n'a plus envie de chiner, la fouine ne veut plus fouiner, le putois ne veut plus puter. Ah, quand finira la grève, ah, quand finira cette grève-là.
Et les animaux peuvent aussi se mettre en grève, c'est en tout cas ce que chantait Morel. Merci beaucoup à tous les trois. Beethoven, c'est une exposition collective donc à la Conciergerie jusqu'au 11 mars. Et puis vous ouvrez aujourd'hui une autre exposition, Ghislain Berthollon, à la galerie Olivier Castin. C'est à Paris, une exposition consacrée à la figure de Léda, autrement dit, après les cerfs, il sera question de cygnes. Merci beaucoup à vous, Michel Pastoureau. Ce très très beau livre, Bestiaire du Moyen-Âge, Bestiaire au pluriel du Moyen-Âge, est disponible aux éditions du Seuil. Dernière caresse de Catherine Guilbeault, c'est disponible en folio. Il faut dire également, Catherine Guilbeault, que vous êtes éditrice et que chez Arléa, apparu en 2008, un livre de Michel Pastoureau, précisément intitulé « Les animaux célèbres ». Et puis si l'actualité de autour de l'animal vous intéresse, sachez qu'un cycle animal avec le carnaval des animaux, notamment de Saint-Saëns, sera bientôt à la Cité de la Musique à Paris, que vous pourrez voir au cinéma Bovine sur la vie des vaches ou Félin sur la vie comme des félins. Et puis qu'au Centre Pompidou, le festival Hors-Piste à partir du 27 janvier sera lui aussi consacré à l'animal. Voilà, c'est la fin de la Grande Table sur France Culture. Un grand merci à toute l'équipe et en particulier aujourd'hui à Raphaël Bourgois et à Ségolène Darny. À la coordination, il y avait Corinne Amard, Brigitte Masson, notre stagiaire Sarah Cuvelier, à la réalisation Perret Legras et à la prise de son aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan. Il est 13h27 sur France Culture. Tout de suite, on retrouve la chronique de François Rollin.
Mes chers compatriotes,